Vous écoutez, on lit pour vous.
Crise du logement. Alors que l'État se désengage, une entraide de proximité permet d'éviter le pire. Un texte de Nicolas Bencherki, Mathieu Chaput et Nassiri Sarah, paru le 27 juin 2025 dans La Conversation. Face à la crise du logement, une autre forme de solidarité émerge, l'entraide entre locataires. Dans l'ombre des institutions débordées, des citoyens s'organisent pour s'aider, partager des conseils et trouver des solutions ensemble. Dans plusieurs villes, le taux d'inoccupation frôle ou tombe sous la barre de 1% pendant que les loyers grimpent en flèche. Face à cette rareté de logements abordables, les élus comme les médias tirent la sonnette d'alarme. Et même si la situation est critique, le Tribunal administratif du logement, TAL, a récemment proposé une hausse record des loyers de 5,9% en moyenne, un coup de massue pour les locataires déjà fragilisés. Cette crise, bien que dénoncée de longue date par les groupes communautaires et militants, prend désormais une ampleur inédite. En toile de fond, deux facteurs structurels, le manque chronique de logements sociaux et un marché de plus en plus livré à la spéculation immobilière. Dysfonctionnement du TAL. Les ressources des comités logements présents dans chaque quartier ou ville du Québec ne sont pas comparables à la multiplication et à la lourdeur croissante des cas qu'ils accompagnent. Leur financement s'accompagne de plus en plus de conditions, comme celle de ne pas dénoncer les dysfonctionnements du Tribunal administratif du logement. Celui-ci se fait reprocher, entre autres, les longs délais de traitement, les décisions étant souvent rendues bien après que les locataires ont dû déménager ou subi un préjudice important. Le TAL a aussi échoué à empêcher les loyers d'augmenter de manière draconienne, jusqu'à 71% à Montréal depuis 2019, malgré que le Québec soit censé avoir une politique de contrôle des loyers. À Montréal comme ailleurs dans la province, le manque chronique d'inspecteurs a contribué à la multiplication des logements insalubres. Malgré une hausse des inspections à Montréal au cours de la dernière année, celle-ci ne mène qu'à de timides amendes et tarde à se traduire en amélioration des conditions de vie des locataires. Face à cette conjoncture, les locataires livrés à eux-mêmes doivent trouver des alternatives, comme l'entraide. D'ailleurs, 75% des Québécois affirment faire du bénévolat directement auprès d'autres personnes sans passer par un organisme formel. Face au désengagement de l'État, un filet social improvisé. C'est ce phénomène que nous avons voulu mieux comprendre dans le cadre du projet « Entraide dans les marges ». Notre équipe de recherche a passé en revue la littérature scientifique sur les pratiques d'entraide à l'échelle mondiale et analysé des échanges entre locataires québécois, notamment sur les réseaux sociaux. En marge des institutions censées les accompagner, comprendre comment les personnes s'entraident est une démarche nécessaire. Nous avons constaté le désarroi des locataires, mais aussi leur générosité lorsque vient leur tour d'aider les autres par des conseils ou des solutions pratiques. Ainsi, nous avons constaté, notamment sur des groupes Reddit, que des familles demandent dans quelle région elles peuvent déménager afin de ne pas se retrouver à la rue alors que leur loyer augmente dangereusement ou qu'elles sont menacées d'expulsion. Nous avons aussi vu de nombreuses personnes offrir un hébergement pour quelques jours à des inconnus dans le contexte où les ressources en hébergement se font rares. La littérature suggère que face au désengagement de l'État et à la dissolution du tissu communautaire, les citoyens s'en remettent à l'entraide, c'est-à-dire au soutien de pairs qui sont passés par des expériences similaires ou qui sont en mesure de les aider. Dès les années 1980, certains auteurs, comme le chercheur américain Lawrence Schulman, soulignent que l'entraide se fait par la communication grâce au partage des idées, faits, croyances ou ressources. L'entraide sur les réseaux sociaux. Nous avons ainsi observé comment s'organise l'entraide sur les réseaux sociaux grâce au langage et à la rhétorique employée. Nous avons remarqué que les demandes d'aide et leurs réponses suivent une même structure. Les internautes commencent par formuler un problème, montrant qu'ils en sont les victimes et non pas les auteurs, et en insistant sur leur vulnérabilité, suscitant ainsi l'empathie de leur auditoire. Ils indiquent ensuite l'aide qu'ils souhaitent recevoir au moyen d'une question et en éliminant les options déjà explorées. Ils montrent qu'ils connaissent les règles implicites de la communauté par l'emploi de formules de politesse et d'émojis remplissant une fonction relationnelle. Les réponses dépendent de la formulation de la demande. Une demande ambiguë génère des réponses très diversifiées, allant de l'encouragement à porter plainte au tribunal administratif du logement à l'offre de colocation, en passant par des conseils juridiques plus ou moins avisés. Certains répondants redéfinissent le problème initial, suggérant que la personne demandeuse a mal identifié l'enjeu de sa situation. Les réponses méprisantes suscitent des rappels de l'importance d'être empathique envers les demandeurs d'aide. Un fait intéressant a surgi de nos analyses. Si la structure des messages ne variait que peu, les messages anglophones diffèrent clairement de leurs homologues francophones. Les demandes d'aide en anglais consistent davantage en partage d'expériences personnelles et en appel à l'action politique, tandis que ceux rédigés en français se concentrent davantage à résoudre un problème pratique. Les groupes de discussion, dans les deux langues, sont aussi l'occasion de nombreuses rencontres entre locataires et propriétaires. Ces derniers expriment souvent de la compassion envers les situations difficiles décrites dans les demandes d'aide et s'indignent des pratiques parfois malhonnêtes des propriétaires concernés. Au-delà de la division entre propriétaires et locataires, il semble donc que les réseaux sociaux offrent aussi un lieu de dialogue. Une solidarité discrète, mais cruciale. Cette forme d'entraide, bien que ponctuelle, n'en est pas moins essentielle. Dans un contexte où l'État se désengage de ses responsabilités en matière de logement, elle agit comme un filet de sécurité improvisé. Elle ne remplace pas les politiques publiques, mais elle pallie leur absence les plus criantes. Documenter ces pratiques peut contribuer à mieux outiller les locataires, les aider à formuler leurs demandes, à identifier les ressources et à maintenir des réseaux d'entraide durables. Car en l'absence de solutions structurelles, c'est souvent cette solidarité de proximité qui leur permet d'éviter le pire. C'était « Crise du logement ». Alors que l'État se désengage, une entraide de proximité permet d'éviter le pire. Un texte de Nicolas Bencherki, Mathieu Chaput et Nassiri Sara, paru le 27 juin 2025 dans La Conversation.
Apprivoiser les changements climatiques, un bloc à la fois. Un texte d'Aurélie Lachapelle, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse. Vous vous sentez impuissant face aux changements climatiques? Pourquoi ne pas essayer de les apprivoiser de façon ludique en jouant à Minecraft? C'est l'idée d'un groupe de chercheurs de l'Université Concordia, dirigé par Bart Simon, Darren Wessler et Jason Edward Lewis. En mai, ils ont lancé le jeu Gaia's Riddle, l'énigme de Gaia, qui utilise la plateforme du populaire jeu de survie et de construction Minecraft. Dans l'énigme de Gaia, il faut affronter un monde frappé de plein fouet par les changements climatiques. S'il fait trop chaud ou trop froid, on commence à souffrir et à mourir, explique M. Wessler. Ajoutez à cela des conditions météorologiques épouvantables, comme des cyclones géants ou des incendies de forêt. Mais la vraie particularité du jeu, c'est le serveur Sunblock qui l'héberge. Il fonctionne à l'énergie solaire. Sur le toit d'un pavillon de l'Université Concordia se trouvent deux panneaux solaires qui alimentent le jeu. Il est possible de suivre la consommation et l'état de la batterie en direct grâce à un site web. Une information intéressante à consulter, mais surtout importante pour les joueurs, car l'énergie produite par les panneaux solaires affecte directement le jeu. Il pleut, on ne joue plus. Prenons un exemple. L'équipe de recherche a créé une épée solaire au sein de l'énigme de Gaïa. Quand le panneau reçoit plus de lumière, l'épée devient plus puissante. Donc, lorsque les joueurs combattent le dragon ou d'autres monstres, ils doivent tenir compte de la météo à Montréal, illustre Darren Wessler. En mai, lorsque la pluie est tombée pendant plusieurs jours à Montréal, les joueurs ont écopé, raconte-t-il. Autour du 10 mai, la batterie est tombée à zéro. Tout le monde attendait qu'il fasse soleil pour pouvoir jouer à Minecraft. Selon le chercheur, la force du jeu est l'intégration de l'énergie solaire au premier plan. Il joue davantage avec la batterie qu'avec le jeu. C'est précisément le but, les faire réfléchir à la consommation d'énergie. Autre exemple, avec l'énigme de Gaïa, il existe un mode économie d'énergie et un mode haute efficacité. Ce deuxième mode consomme plus d'énergie et comprend moins de bugs. Ce sont les joueurs qui décident collectivement quel mode utiliser. S'ils souhaitent jouer plus longtemps, ils peuvent utiliser une faible consommation d'énergie. Mais s'ils participent à une grande bataille, ils peuvent choisir ensemble de consommer plus d'énergie, décrit Darren Wessler. La tendance du jeu écologique. L'énigme de Gaïa s'inscrit dans une nouvelle tendance, l'éco-gaming, soit le jeu écologique. L'utilisation des jeux vidéo est polluante, tout comme n'importe quelle activité numérique, souligne Maude Bonenfant, professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Le jeu écologique, résume la chercheuse, c'est de prendre acte du fait que les jeux vidéo laissent une trace sur l'environnement et de réfléchir à différents types de stratégies pour réduire l'empreinte carbone des jeux vidéo et de leur conception. Selon Darren Wessler, l'énigme de Gaïa est bien plus qu'un simple outil de conscientisation. C'est un jeu écologique différent car il est réel. L'énergie est directement intégrée au jeu. C'est là toute la différence. C'était « Apprivoiser les changements climatiques, un bloc à la fois », un texte d'Aurélie Lachapelle, paru le 20 juillet 2025 dans la presse.
Des dizaines de coopératives d'habitation sous surveillance. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir. Plus d'une trentaine de coopératives d'habitation à l'échelle du Québec qui sont aux prises avec des problèmes de gestion ou des tensions internes font actuellement l'objet d'un suivi serré de la part d'une série d'organisations qui tentent d'éviter que celles-ci ne perdent leur statut. Le 30 janvier 2025, Le Devoir publiait une enquête portant sur des lacunes dans le processus de sélection des membres louant des logements dans certaines coopératives de la province. Le lendemain, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, CQCH, annonçait la création d'un comité consultatif destiné à se pencher sur les pratiques inclusives et les enjeux de discrimination dans cet écosystème de logements abordables, dont plusieurs sont subventionnés par l'État. Depuis, ce comité, auquel siègent notamment des représentants de la Société d'habitation du Québec, SHQ, de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, de plusieurs fédérations de coopératives et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, s'est rencontré une fois par mois. Résultat, on est en train d'accompagner 34 coopératives, confie en entrevue la directrice générale de la CQCH, Sandra Turgeon. Celles-ci ont été ciblées en raison du risque que les failles qui y ont été décelées ne mènent ces établissements à perdre le statut qui leur permet d'offrir des loyers abordables à leurs locataires en échange de leur participation à la gestion et à l'entretien des lieux, explique-t-elle. Fraude, mauvaise gestion, négligence dans la transmission d'informations financières au gouvernement et manque d'entretien des bâtiments sont autant de problèmes qui ont été ciblés dans diverses coopératives, confie-t-elle au Devoir. On essaie de les aider avant que le pire arrive. Le directeur général de la Fédération des coopératives d'habitation de Lanaudière, des Laurentides et de Laval, Simon Belmar, siège lui aussi à ce comité consultatif. En entrevue, il fait état du travail humain qu'implique l'intervention de cet organe auprès des coopératives ayant fait l'objet de signalements. On va rencontrer notre coopérative membre, on va travailler avec elle, on va s'assurer qu'elle a des règlements généraux à jour, on va regarder sa gouvernance et s'assurer qu'elle a des comités pertinents, dont un comité voué à la sélection des nouveaux locataires, énumère-t-il. Comme dans n'importe quelle organisation, parfois il y a des ratés et on intervient, ajoute M. Belmar, qui affirme que ce comité a réglé dans les derniers mois la majorité des problématiques plus urgentes qui lui ont été soumises. Formation obligatoire. La SHQ a pour sa part mené 25 vérifications depuis le début de l'année dans autant de coopératives de la province. Elle s'est d'ailleurs rendue en moyenne dans 35 établissements par année entre 2018 et 2024, montrent des données fournies au Devoir par l'organisme provincial. Chaque année, une partie de ces vérifications sont menées de manière aléatoire, au sein d'un échantillon déterminé par la SHQ. Elle assure ainsi une certaine surveillance quant au respect des règles de gouvernance et financière par des coopératives dont certains logements sont financés par l'État afin que leurs occupants puissent débourser un loyer bien en deçà de celui du marché. Certaines coopératives font pour leur part l'objet de vérifications à la suite de plaintes reçues ou de demandes internes, précise la SHQ par courriel. Cela a été le cas dans 6 coopératives l'an dernier et dans 7 autres depuis le début de 2025. Les coopératives où des lacunes sont alors constatées doivent ensuite mettre en place un plan d'action afin de remédier à la situation. Or, l'une des principales solutions aux problèmes administratifs récurrents dans une coopérative passe par l'imposition de formations obligatoires à ses membres et en particulier à ceux qui siègent à son conseil d'administration, estime le directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec, FHCQ, Patrick Préville. Il faut s'assurer de donner des outils aux gens qui habitent dans les coopératives, plaide-t-il. Ce dernier a d'ailleurs acheminé dans les derniers mois cette recommandation et plusieurs autres à la SHQ et à la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau. Une autre des demandes de la FHCQ est celle d'obliger une coopérative jugée non conforme à la réglementation à adhérer à une fédération représentant ce type de milieu de vie pendant une durée minimale de 5 ans, afin que cette dernière puisse la soutenir dans le redressement de ses activités, indique le directeur général de l'organisation. Ce qu'on constate, c'est que les coopératives à risque sont celles qui se sont repliées sur elles-mêmes et ne sont membres d'aucune fédération, relève pour sa part la directrice générale de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, Sandra Turgeon. On ne peut pas deviner que ça va mal dans une coop si celle-ci ne va pas chercher de l'aide, souligne-t-elle. Une loi en voie d'être révisée. Patrick Préville voit d'autre part d'un bon œil l'intention de Québec de réviser certains articles de la loi sur les coopératives, dont certains boulons mériteraient d'être resserrés, selon lui. Dans un touffu projet de loi présenté le mois dernier à l'Assemblée nationale, le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, propose plusieurs ajouts à la loi actuelle afin d'améliorer la gouvernance de ces établissements. Le document prévoit entre autres de permettre aux coopératives de limiter, dans leurs règlements internes, le nombre de renouvellements de mandats pouvant être accordés aux membres de leur conseil d'administration. Il est aussi prévu que les membres de cette instance doivent refléter la diversité des membres de la coopérative. Le ministre Skeet entend d'ailleurs transférer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation des responsabilités sectorielles en matière d'habitation liées à l'encadrement des coopératives au Québec. Une mesure qui vise, sans s'ingérer dans la gestion démocratique de ces bâtiments, à donner à ce ministère des leviers législatifs ou réglementaires supplémentaires pour encadrer les pratiques des coops d'habitation, indique l'attaché de presse de M. Skeet, Léa Fortin. Ce projet de loi sera étudié à l'automne 2025 à l'Assemblée nationale. C'était des dizaines de coopératives d'habitation sous surveillance, un texte de Zachary Goudreau, paru le 9 juillet 2025 dans Le Devoir.
Non, le docteur Vadeboncœur n'encourage pas l'augmentation du pénis. Un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 23 juillet 2025 dans La Presse. C'est ce qu'une vidéo réalisée par hypertrucage, deepfake, fait dire à un faux docteur Alain Vadeboncœur sur les réseaux sociaux. Un énième exemple d'arnaque qui utilise l'intelligence artificielle et la crédibilité de personnalités médicales bien connues. Je parle de ça cette fois-ci, s'exclame en riant le vrai docteur Alain Vadeboncœur, qui raconte avoir vu de nombreuses autres vidéos de lui au cours des derniers jours, toutes sous le thème de l'urologie, cancer de la prostate, dysfonction érectile, etc. Citation : Il y a une talle de sujets urologiques ou de santé sexuelle qui surgit sur les réseaux sociaux dans les derniers jours et je suis rendu un grand spécialiste. Fin de citation, lance-t-il ironiquement. Ces vidéos ne sont certes pas parfaites. Dans la plus récente sur l'augmentation pénienne, ci-dessus, on constate de nombreux bugs et les pauses peu naturelles dans les phrases du faux docteur sont suffisantes pour mettre la puce à l'oreille d'un spectateur averti. Mais elles sont assez réalistes pour faire tomber des gens dans le panneau. Citation : Les vidéos me donnent un peu un accent à la française, mais elle n'est pas pire. Il faut que tu me connaisses bien pour savoir que ce n'est pas moi. Fin de citation. Commente le principal intéressé. Pas un cas unique. Alain Vadeboncœur n'est pas le seul professionnel de la santé à s'être vu propager des faussetés sur les réseaux sociaux. Récemment, le docteur François Marquis et la nutritionniste Isabelle Huot ont pu voir leur doublure arnaque vanter respectivement les mérites d'une cure miracle pour l'arthrite et des pilules pour maigrir. Au Québec, aucun médecin ne peut faire la promotion de produits médicaux. C'est interdit par le code de déontologie du Collège des médecins. Ce n'est cependant pas le cas partout dans le monde, ce qui peut laisser planer un flou dans la tête des gens, même ici. Tous susceptibles de tomber dans le panneau. Pilules keto, CBD, produits contre le cancer, ce n'est pas la première fois qu'on utilise la notoriété d'Alain Vadeboncœur pour générer des clics sur les réseaux sociaux. Il compile d'ailleurs une liste des fausses publications le concernant qu'il voit passer sur l'Internet. Le médecin raconte avoir vu ses arnaques apparaître pendant la pandémie, une période où sa visibilité s'est accrue grandement. Les fausses publications consistaient d'abord en une pléthore d'images et d'articles fictifs à la plausibilité variable. Citation : J'avais des collègues médecins qui me demandaient pourquoi je donnais des entrevues au Journal de Montréal sur le CBD. Fin de citation, raconte l'urgentologue. Au dire du médecin, c'était agaçant, certes, mais les conséquences étaient plus limitées. Citation : Mais depuis un an ou deux, poursuit-il, ce sont les deepfakes qui ont embarqué et malheureusement, ils sont bons en tabarouette. Fin de citation. En entrevue, le docteur Vadeboncœur révèle même qu'une connaissance du milieu universitaire lui a récemment écrit après avoir acheté un produit pour la dysfonction érectile dont il semblait faire la promotion en ligne. Citation : Si un universitaire qui a un esprit critique développé se fait avoir, ça veut dire que ça marche. Fin de citation. La connaissance en question, qui a déboursé 200 $ en plus de donner ses informations bancaires aux fraudeurs, avait été berné par une vidéo hyper truquée, accompagnée d'un simulacre d'entrevue qui reprenait l'esthétique du magazine L'Actualité, dans lequel le docteur Vadeboncœur tient une chronique. Citation : C'était à s'y méprendre. La page est parfaite. Fin de citation, reconnaît le médecin. Citation : Compte tenu de la quantité de vidéos qu'on voit, on est tous susceptibles de regarder quelque chose trop rapidement et de baisser la garde. Fin de citation, explique Frédéric Bruno, cofondateur du Laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Un risque accru pour les plus vieux. Citation : Je pense que je suis très pratique pour les fraudes, parce que ma tête est très bien découpée. Fin de citation, ajoute le célèbre médecin qui est chauve. À cela, Frédéric Bruno ajoute qu'il est surtout pratique parce que le nombre de séquences vidéo sur lesquelles les fraudeurs peuvent se baser est beaucoup plus important pour les personnalités connues. Si le médecin envisage avec agacement et humour de voir ses traits utilisés pour vendre tout et surtout n'importe quoi, ce n'est pas sa principale préoccupation. Citation : On me dit « Pauvre toi !» Oui, ça me dérange un peu. Mais ça m'inquiète encore plus pour les gens qui se font avoir. Fin de citation. Citation : Dans ma génération et celle plus vieille, il y a une bonne proportion des gens qui ne sont pas en alerte continuellement pour déceler les deepfakes, hypercrutage. Fin de citation, indique le médecin de 61 ans, conscient d'être particulièrement lu, écouté et cru par une certaine frange plus âgée du public. Citation : C'est un risque pour tous les utilisateurs, insiste Frédéric Bruno, mais les personnes qui sont plus âgées sont souvent moins habituées et moins exposées, fin de citation, aux hypertrucages et donc, oui, plus susceptibles d'être manipulées. Citation : Et pour la question de l'élargissement du pénis, je ne suis pas au courant. Il faudrait demander à un urologue, ce que je ne suis pas, fin de citation, conclut le médecin avec humour. C'était « Non, le docteur Vadeboncœur n'encourage pas l'augmentation du pénis », un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 23 juillet 2025 dans La Presse.